cette rencontre, nous accueillons donc bien sûr Gérard Bazalgette. Je te présente rapidement. Gérard Bazalgette, donc, qui est l'auteur de cet ouvrage, La folie et la psychanalyse, est psychanalyste, psychiatre d'origine et psychanalyste, membre du quatrième groupe, qui s'appelle comme ça parce qu'il a été le quatrième à exister en France lorsque ses fondateurs ont décidé de se séparer de Lacan avec lequel ils étaient en désaccord sur certains points, notamment de formation. Gérard Bazalgette a écrit déjà un ouvrage en 2006 qui s'appelle « La tentation du biologique et la psychanalyse », qui est un ouvrage assez de théorie fondamentale, enfin beaucoup, sur la question des rapports du psychisme et du cerveau et des théories biologiques et neuroscientifiques avec la psychanalyse. C'est une des questions qu'il reprend dans cet ouvrage d'aujourd'hui, mais bien élargi avec tout un soubassement clinique et théorique extrêmement important dont il va nous parler. Au départ, l'élaboration de ce travail a fait l'objet d'un séminaire qui a été conduit donc par Gérard Bazalgette à Bordeaux de 2006 à 2012, si je ne me trompe pas, et qui ensuite remanié et enrichi a donné lieu au contenu de cet ouvrage. Donc Gérard Bazalgette va nous présenter son livre, ensuite je lui poserai quelques questions, et ensuite Jean Broustra présentera en particulier la partie création littéraire qui est impliquée dans cet ouvrage, puisque c'est un ouvrage qui vraiment aborde des directions très diverses autour de cette question, folie et psychanalyse.
Merci et bonjour à tous et merci de votre présence. L'ouvrage que je vous présente aujourd'hui, La folie et la psychanalyse, parle avant tout de la psychose, entendue d'un point de vue psychanalytique. Ça veut dire quoi? On va voir, mais une conception nosographique est d'emblée engagée, et sur ce plan, je m'inscrirai dans la perspective de Freud. D'une part, il y a la mélancolie manie en fait, et d'autre part, mais en articulation avec elle, il y a le groupe des paraphrénies, terme que Freud affectionnait et qui renvoie au spectre général des schizoparanoïas. Sur le fond, c'est un champ nosographique unifié que nous propose Freud, une dynamique générale qui articule les phénomènes depuis la mélancolie jusqu'au schizoparanoïa et ne s'arrête jamais à un simple étiquetage isolé des formes. Je le suivrai sur cette voie. Pourquoi ai-je écrit ce livre? C'est le terme de nécessité qui me vient, d'une nécessité bien sûr personnelle, celle qui surgit de la rencontre fortuite ou finalement recherchée souterrainement avec les confins du psychisme, avec ces êtres de souffrance qui ont dû quitter le pacte humain ou qui n'ont pu y entrer, et qui pourtant ne cessent d'évoquer ce qu'en seraient les conditions. Et là surgissent pour le psychanalyste l'angoisse, et plus encore la peur viscérale, vitale, et l'urgence de penser, c'est-à-dire de produire l'appareil théorico-pratique qui, loin de toute spéculation, si possible, peut permettre non seulement une compréhension, mais aussitôt et déjà une transformation de ce dont nous sommes les témoins acteurs. Dans cette perspective, mon livre ne se détache jamais de la clinique. De la clinique de la psychose, de l'adulte et de celle de l'enfant, et ici avec l'iconographie qui est nécessaire. Cette clinique vient sans cesse soutenir les constructions métapsychologiques qui tentent d'en répondre. Quelles sont-elles ces constructions métapsychologiques? Pour chaque psychanalyste, mais plus encore, je crois, lorsqu'il s'agit de psychose, elles sont toujours à réinventer. Et cela veut dire qu'il faut, en fonction de notre clinique, réexaminer les théorisations de ceux qui nous ont précédés pour s'y inscrire, leur donner de nouvelles extensions, les mettre en question parfois, sachant que dès lors qu'il s'agit de psychose, ce sont les concepts les plus fondamentaux de notre discipline et de son procédé qui vont devoir être réinterrogés. Pour cela, j'essaye de redéfinir le lieu psychique inventé par Freud en précisant certains aspects à la lumière des avancées post-freudiennes et contemporaines. Que faut-il penser aujourd'hui de l'appareil psychique freudien et de ses modalités d'exploration à une période où les neurosciences viennent souvent le contester ou même le nier? Que faut-il penser de la théorie des pulsions qui sous-tend pour nous l'appareil psychique? Je donne mes points de vue sur ces questions controversées. De là, et en m'aidant de nombreuses illustrations, je tâche de produire la construction métapsychologique générale que la psychose pourrait aujourd'hui laisser supposer. Cette construction me conduit d'abord à décrire un certain nombre de phases de développement du sujet, constamment entremêlées, mais que je suis amené à dissocier pour montrer la logique qui anime chacune d'elles. En premier lieu, il y a le système originaire, et je reprends ici la conception de Pierre Aulagnier, avec des variations plus ou moins importantes. Parmi ces variations, mais ce n'est pas la moindre, je ne considère pas pour ma part que les proto-représentations choses qui règnent dans l'originaire tombent, comme elle dit à propos de ce qu'elle nomme pictogramme, sous le coup du refoulement originaire. La clinique et la création artistique contemporaine nous montrent, je crois, qu'il n'en est rien. Mais quel est-il ce système primitif en lequel l'infant serait l'illusion d'auto-engendrer un réel de satisfaction ? Quelle est-elle cette phase de créativité intense, cette phase de l'infiniment possible dans laquelle le sujet viendrait sans cesse repuiser et notamment à travers la sublimation? Cette étude de l'originaire me permettra en tout cas d'émettre une première hypothèse sur la mélancolie et sur ce qui pourrait en être le centre de gravité, c'est-à-dire l'effondrement inéluctable du dit système originaire. J'aborde en particulier à ce propos, au titre des défenses originaires contre cet effondrement, la question singulière et difficile des défenses autistiques. L'analyse de plusieurs enfants vient appuyer mon développement. J'insiste ensuite sur une phase consécutive à l'effondrement du système originaire, celle de l'identification projective-introjective. Cette phase, qui nous parle de la projection haineuse et envieuse de l'infant sur l'autre naissant, est peu prise en compte par les auteurs français, à l'exception bien sûr des auteurs kleiniens. Toutefois, elle me semble véritablement incontournable pour conceptualiser la clinique des schizoparanoïa, comme les phénomènes d'influence ou de persécution qui les habitent. Si en effet l'originaire et son effondrement représente le centre de gravité de la mélancolie et de son pendant la manie, c'est pour moi la phase d'identification projective-introjective qui représente celui des délires hallucinés de la schizoparanoïa. On le verra au travers de l'étude de plusieurs cas. Mais, et aussi bien dans les cas exposés, la psychose ne saurait se résumer à une régression vers des phases primitives du développement. Et il y a à montrer en quoi la défaillance de structures supérieures censées permettre le dépassement de ces phases, après tout présentes pour chacun, vient entraîner cette régression et une recomposition maintenant délirante de l'accès au réel. Je m'attache donc en suivant à la question du fantasme. Je montre le pas que représente la création du fantasme au regard des phénomènes originaires et d'identification projective et introjective. Quelque chose de nouveau se produit avec l'avènement du fantasme, la possibilité d'une représentation imaginaire du sujet dans son rapport à l'autre et à un objet, là où n'existait qu'un corps à corps. Et j'étudie cette mise en place comme son échec, ainsi que la mise en place du deuil qui doit s'en faire et qui seul ouvre à l'appréhension de la réalité que nous nommons symbolisante. Sur ce chemin, j'étudie particulièrement la question de la bisexualité originaire et son mouvement vers la constitution de la différence des sexes et de l'amour génital, pas simplement des hommes et des femmes. Si en effet cette problématique, dont la symbolisation est étroitement dépendante, se trouve seulement en suspens dans l'hystérie, elle est radicalement dans l'impasse avec la psychose. Cette question de la bisexualité est très difficile. Freud n'a cessé de le dire, mais je pense qu'il est possible aujourd'hui à articuler, à la condition d'en reconstituer le lien avec la théorie des pulsions et de réexaminer la conception freudienne du phallus. Freud regrettait, on le sait, une certaine absence de lien entre la théorie de la bisexualité et la théorie des pulsions. Ne peut-on pas considérer pourtant que c'est bien dans la théorie des pulsions, avec leur double but actif et passif, que s'origine la bisexualité et sa dialectique? Et n'est-ce pas la conception freudienne du phallus en tant que seul principe d'ordre d'origine masculine, au regard de l'hybris maternel, qui vient en fait entraver la recherche sur la dialectique bisexuelle? J'essaie d'avancer sur ces questions. En reprenant tous ces éléments d'une manière longitudinale, je propose ensuite trois longues études théorico-cliniques, l'une sur l'hystérie, paradigme dans la névrose, dans son rapport avec la psychose, la seconde sur la mélancolie, la dernière sur la reconstruction psychotique délirante. Mais, me diront peut-être certains, pourquoi avoir intitulé ce livre « La folie et la psychanalyse » et non pas seulement « La psychose et la psychanalyse » ? Eh bien, c'est qu'en réalité, un travail préliminaire s'est imposé à moi, travail qui justifie le titre et qui consiste à situer l'option psychanalytique au regard de l'histoire générale de la folie, c'est-à-dire de la pensée et de la déraison. C'est donc un triple intérêt, théorico-clinique, historique et épistémologique, que je souhaite susciter chez le lecteur. Et j'ai donc commencé par l'histoire. Il y a en effet à refaire le parcours de la folie, ou plutôt de ce que l'homme a pu construire au fil des siècles pour la circonvenir. Je ne cherche certes pas dans cet ouvrage à proposer une vue d'ensemble d'une histoire de la folie qui n'a jamais cessé de s'écrire, et parfois avec bonheur d'ailleurs. Ma visée est plus précise. Elle consiste à essayer d'apercevoir au cœur du questionnement séculaire la problématique qui déjà et depuis toujours pouvait appeler la voie de réponse que proposera un jour la psychanalyse. À cet égard, et dans ma traversée historique, je souligne que dès l'origine, en tout cas depuis l'Antiquité grecque, l'homme a recherché la causalité de la folie sur deux versants, celui d'une causalité plus ou moins morale et celui d'une causalité physique. Ce que nous observons aujourd'hui n'est d'ailleurs que la poursuite du même débat dualiste, longtemps seulement paradoxal, jusqu'à la naissance de la psychanalyse qui viendra en subvertir les termes de façon révolutionnaire en inventant un appareil nouveau, l'appareil psychique. Mais je commence avec notre antiquité, du côté d'Asclépiade qui cherchait à traiter la folie et ses troubles comportementaux de façon immédiate et pragmatique. Une figure majeure s'impose, celle d'Hippocrate, avec sa théorie humorale et vitaliste. Et je montre comment la question de la folie est venue s'organiser et se distribuer pour lui. Et j'insiste tout particulièrement sur une invention majeure qui apparaîtra avec Hippocrate ou dans sa postérité immédiate, c'est peut-être son gendre, celle de la bile noire, de l'atrabile, une curieuse substance corporelle, en fait introuvable, dont Aristote fera plus tard le lieu conjoint et énigmatique du génie, c'est-à-dire de la pensée en marche, et de la folie, de la déraison. J'examine avec attention ce concept, qui est un concept drôlement étrange quand même, cette histoire de bile noire, parce que vous avez le sang, vous avez la lymphe, la bile jaune, bon, tout ça, on voit bien ce que c'est, ça s'observe. La lymphe, ça serait le pus, ça serait toutes ces affaires-là. La bile jaune, bon, bah oui, ça existe. Mais alors la bile noire, qu'est-ce que c'est? On nous parle de vomissements noirâtres de l'automne, mais on ne voit vraiment pas ce que c'est. Et en fait, c'est justement ça qui est intéressant, c'est que c'est un terme introuvable, comme le quatrième terme d'une tétrade, une figure de la négativité finalement, qui vient soutenir l'ensemble. C'est tout à fait passionnant. Donc j'examine avec attention ce concept qui indexe une opacité autour de laquelle graviteront durant quand même plus de 15 siècles, quand même, hein, les thèses mécanicistes et vitalistes, celles qui voudront faire de la folie soit un dysfonctionnement organique mécanique, soit l'altération d'une intelligence, d'un principe vital qui ne saurait s'y réduire. Je suis l'évolution de ce mouvement au Moyen-Âge, à travers la Renaissance, jusqu'à la naissance de la psychiatrie au début du XIXe siècle, naissance qui consommera l'abandon de la bile noire et posera radicalement les termes de la dichotomie sous-jacente avec les thèses en miroir de Pinel et de Cabanis, celles respectivement de la causalité morale et de la causalité physique, dans ce qui va se décrire non plus comme folie, mais comme aliénation mentale, puis psychose. Le terme de psychose apparaît en 1845 seulement, ou à peu près. Je montre ensuite comment avance cette psychiatrie en France et en Allemagne jusqu'au début du XXe siècle, qui inscrira en vis-à-vis l'invention freudienne d'une part et la grande classification des psychoses de Kraepelin d'autre part, non sans qu'une autre voix encore ne cherche à s'immiscer dans le débat, celle de la phénoménologie de Binswanger. L'expérience de la clinique du Burgosli à Munich vers 1910 témoigne, on le voit, de l'âpreté des débats engagés. On connaît l'avenir de la controverse. Ceux qui se prétendent néo-crépliniens iront vers une conception toujours plus neurologique et mécaniciste, en multipliant les types et sous-types de psychose au pluriel, jusqu'à une atomisation nosographique extravagante que n'aurait certainement pas soutenu Kraepelin. Certains aujourd'hui en viennent à souhaiter la disparition même du terme de schizophrénie au profit d'un dopamine dysregulation disorder. La voie freudienne ouvrira quant à elle à une définition de la psychose, entendue comme perturbation d'un appareil psychique. Et Freud décrira dans ce cadre la mélancolie, les paraphrénies, schizoparanoïa, je l'ai dit. Et c'est à l'élaboration de ce point de vue que s'attache bien sûr ce livre, vous l'avez compris. Voilà donc pour le cadre général, mais pour finir, je voudrais mettre l'accent sur une question qui court tout au long de mon texte et qui d'ailleurs l'introduit et le conclut, la question de la sublimation. Les psychotiques ne sont pas le plus souvent versés dans la sublimation. Et la chute psychotique témoigne plutôt d'un échec de celle-ci. Néanmoins, l'étude approfondie des processus dévoilés par la psychose, en particulier du côté de l'originaire et de l'identification projective, permet d'esquisser une nouvelle conceptualisation de la sublimation que l'analyse de certaines productions artistiques vient, à mon sens, confirmer. J'en donne de nombreux exemples au fil du texte, tant du côté des installations ou performances que l'on nous propose aujourd'hui que du côté des productions artistiques plus anciennes. Dans tous les cas, je situerai la sublimation comme une tentative de retour vers la créativité originaire face au désastre qui menace d'engloutir le sujet. Dans cette perspective d'ailleurs, et comme pour en donner la tonalité, mon livre commence avec une étude de l'œuvre de William Burroughs, intitulée « Psychose, drogue et sublimation », et une analyse du film de David Cronenberg, « Le Fast à nu », qui concerne également Burroughs. Il se conclut sur une note plus tragique, avec l'analyse de l'œuvre d'une dramaturge anglaise, morte par suicide à l'âge de 29 ans, Sarah Kane. L'œuvre que j'étudie en particulier s'intitule « Anéanti ». Voilà pour l'instant.
Merci beaucoup Gérard pour cette présentation qui nous montre tout de suite, je trouve, la richesse considérable de ton travail avec toutes les avenues que tu empruntes pour essayer de cerner cette question et pour cerner d'ailleurs, je trouve assez remarquablement, cette question de la folie et de la psychose. C'est à mes yeux réellement un grand livre de psychanalyse que tu as écrit, comme il y en a bien sûr quelquefois, mais pas tout le temps. Alors, je ferai quelques remarques et une ou deux questions. Une remarque sur, d'abord sur la question de l'appareil psychique tel que tu le décris, dont au regard de la psychose, la tâche, et au regard de la raison d'une manière générale d'ailleurs, dans la tâche est bien lourde, une tâche qui n'est jamais assurée de son accomplissement, à savoir, selon ta formule, je reprends tes termes, trouver sa voie dans le réel à travers les processus de symbolisation. Et la psychose, alors, est bien la preuve de cette fragilité, de cette précarité des processus humains de symbolisation. Et j'ai trouvé particulièrement audacieuse, mais aussi percutante et convaincante, la manière que tu as d'argumenter en invoquant aussi bien la démarche scientifique que le délire du psychotique pour cerner cette question de, au fond, de la folie, la place de la folie au regard de la raison. Ou aussi bien, tu argumentes avec les mots d'un enfant psychotique, dessinant des chemins labyrinthiques pour chercher, comme la science au fond, à s'orienter dans le réel. Et il y a en particulier toute une iconographie au centre de ton livre, tout à fait exceptionnelle, notamment d'une enfant, une jeune adolescente, qui est tout à fait remarquable, pour, je trouve, et très éclairante, hein, autour de cette question du cheminement dans la construction de soi et du réel. Alors, la science, la psychose, on pourrait objecter que la différence qui existe entre un processus construit collectivement, celui de la science, et la construction solitaire du psychotique. Enfin, solitaire, il faut aussitôt ajouter que la psychose ne se construit pas sans un autre ou quelques autres, bien sûr, qui en ont prédestiné l'issue. Mais on mentionnera aussi, bien sûr, que un délire peut être collectif, comme cela se voit, hein, trop souvent d'ailleurs. Alors, ça revient donc à souligner cette précarité de la symbolisation humaine, hein, qui est vraiment un des cœurs, un des centres de ton texte, de ton approche. Précarité de la symbolisation humaine, symbolisation qui est pourtant fondamentale, indispensable. Ça m'a rappelé une partie, la fin de ton ouvrage précédent, où tu évoques l'œuvre d'Ovide, hein, un grand poète latin, avec ses métamorphoses, qui a été banni toute la fin de sa vie, sans que l'on sache très bien pourquoi. Et ce que tu soutiens, c'est qu'au fond, Ovide, par son œuvre, avait beaucoup trop souligné cette précarité de la symbolisation humaine et des constructions, y compris des constructions du pouvoir, à quoi elle contribue, cette symbolisation. Juste un point sur la question de l'originaire, hein, auquel tu accordes une grande place. L'originaire, donc, concept créé par Pierre Raoul Agnier, hein, non pas les fantasmes originaires, mais bien les processus originaires, dont tu dis d'ailleurs que c'est pour toi l'invention psychanalytique majeure de l'après-Lacan. Alors, bon, tu modifies assez largement ce concept, du moins, enfin, tu le modifies en partie, ce concept d'originaire, avec cette question du pictogramme, de jonction entre une bouche et un sein, hein, qui est le modèle un peu prototypique de cette rencontre, hein, première, de cette figuration première du psychisme. Et ce que tu en modifies, c'est que pour toi, il n'y a pas de... lorsque la frustration, le déplaisir l'emporte, il n'y a pas de pictogramme de séparation, de division, je ne sais plus exactement quel est le terme qu'elle emploie,
de rejet,
il n'y a pas quand même de rejet, mais plutôt destruction de ce système de représentation, destruction du système de représentation pictographique, et que cette destruction, cet effondrement, exactement, cet effondrement, c'est là que tu places le cœur de l'expérience, au fond, mélancolique, qui est bien pour toi, on peut dire, le cœur de ces processus psychotiques. Et c'est une approche tout à fait originale, qui, je crois, a déjà été abordée, mais quand même assez rarement, que de situer la mélancolie comme étant au cœur des processus, bien sûr, psychotiques, mais aussi humains, hein, bien sûr. Alors humain, on le savait peut-être déjà, hein, lorsque bon, les représentations d'un Dürer, etc., auxquelles tu fais référence, que tu analyses en détail, et dans la philosophie, on le savait, dans la psychiatrie et dans la psychanalyse, c'est une approche beaucoup moins fréquente que de situer comme cela au centre la mélancolie et ce processus d'effondrement des représentations et au fond d'effondrement du sujet. Alors, j'aurais pu parler aussi de l'identification projective-introjective, enfin le concept de Mélanie Klein que tu reprends. Et ce qui est tout à fait intéressant, en effet, c'est que d'habitude, c'est un concept qu'utilisent les Kleiniens. Hein, et les Kleiniens, on est Kleinien ou on ne l'est pas, quoi. Hein, c'est un petit peu une chapelle et dommageable, je trouve, pour la psychanalyse, parce que l'usage que tu en fais montre bien que c'est un processus tout à fait essentiel dans ce moment où le sujet essaye de se séparer, hein, de l'autre originaire, de la mère, pour dire vite, et comment ça se joue par un jeu de prise de possession mutuelle, de projection, d'introjection, de haine, d'amour, d'envie et de haine, exactement, enfin, et comment c'est à partir de là que arrivent à se constituer des espaces psychocorporels séparés. Et puis alors, j'aurais tout de même une dernière question sur la question du narcissisme. Parce que chez Freud, en particulier, la mélancolie repose sur une identification narcissique à l'objet. Et c'est parce que il y a cette perte de l'objet dans la réalité ou dans le fantasme, enfin dans l'expérience du sujet en tout cas, c'est parce qu'il y a cette perte de l'objet que la haine se retourne contre le sujet lui-même qui est identifié narcissiquement à cet objet. Alors, et Freud d'ailleurs parlait de la mélancolie comme d'une psychonévrose narcissique. C'est un terme, un concept, le narcissisme que tu ne reprends pas. Je ne sais pas s'il figure dans ton livre. En tout cas, ce n'est pas un concept dont tu te sers. Et voilà, peut-être tu pourrais nous en dire un mot, si tu veux bien.
Ça fait beaucoup, tout ça. Alors, pourquoi je commence ? Bon, par la science, puisque tu as commencé par là. Je vais répondre, en fait, assez brièvement pour qu'on puisse surtout discuter... ensemble plus largement et avant de passer la parole à Jean. Au niveau de la science n'est pas toujours folle quand même, ça peut lui arriver, mais elle n'est pas toujours folle. Et là où elle n'est pas folle, c'est là où les mécanicismes qu'elle crée et les objets qu'elle découvre et qu'elle décrit ne sont pas considérés par elle comme des sortes de réalités ontologiques, mais comme des quasi-réels, comme des manières de parler. C'est là que, quand elle a cette distance, quand la science a cette distance par rapport aux objets qu'elle décrit, qu'elle n'est pas folle, quoi. Et c'est pas toujours le cas, parce qu'on voit par exemple dans certains neurocognitivisme que, eh bien, ses partisans croient dur comme fer que c'est bien le réel, c'est bien du réel qu'il parle, qu'il n'y a pas de problème, c'est là, et que bientôt la pensée d'ailleurs sera elle-même complètement visible par nos appareils. Là, il y a quelque chose qui s'en va. Et les psychotiques, eux, s'il y a une chose, alors c'est là que ça pourrait se rapprocher, c'est que s'il y a une chose qu'ils ne savent pas, c'est que les mécaniques qu'ils développent, parce qu'ils en développent les mécaniques, beaucoup, ils n'arrêtent pas de faire des mécanismes, et bien que leurs mécaniques, justement, ne sont pas habitées par le manque. Elles sont des réalités également. C'est à ce niveau-là que, bon, enfin, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses... À dire là-dessus, et avec la question du mécanicisme, mais bon, je ne vais pas plus loin là-dessus. En ce qui concerne l'originaire, oui, c'est vrai que je porte un certain regard critique sur certains points de la théorisation de Pierrot-Lanier. pas sur les points spécialement dont tu parles d'ailleurs, mais à propos des pictogrammes, je ne pense pas qu'on puisse nier qu'il y ait des pictogrammes de rejet. Il y a des pictogrammes de rejet. Par exemple, dans les processus d'autotomie de Ferenczi, on voit qu'il y a des attaques contre le corps qui vont éventuellement éliminer certaines parties du corps. Les pictogrammes de rejet, ça existe et on les entend bien dans les régressions autistiques, en fait. Là, on les entend bien. On entend bien cette lutte qu'il peut y avoir, quoi. Mais ce que je dis, c'est que ce qui me paraît important, c'est que ce système de pictogrammes de jonction avec les pictogrammes de rejet qui interviennent, etc., a surtout un mouvement, une tendance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'hallucination de satisfaction ne peut plus tenir, tout simplement. Et que donc, ça explose. Et c'est pour ça que je parle d'implosion du système, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le système représentatif lui-même, ce système de proto-représentation de choses, explose complètement. Et c'est là que je situe, moi, la chute, l'effondrement mélancolique. C'est là que je pense que ce sont des choses qu'on peut quand même vérifier. Autrement dit, la différence de ce que dit Freud, c'est pas différent. Ce que dit Freud, c'est qu'à un moment donné, l'hallucination de satisfaction, bon, mais on trouve que c'est décevant et donc on passe à autre chose, à une action spécifique. Mais il y a autre chose entre. Et ce qu'il y a autre chose, c'est que c'est la transformation de l'hallucination de satisfaction en hallucination d'intrusion et d'implosion du système, d'intrusion destructrice. Et ça, c'est de la clinique. C'est par là que ça passe, quoi, la chute du système du système originaire. Alors, en ce qui concerne la mélancolie, est-ce que c'est une nouveauté ? Ce que je dis pas spécialement, par exemple Grissinger avait aussi cette idée-là, le premier psychiatre allemand, de la psychose unique, et la psychose unique qui était à la base de tout, c'était bien cette mélancolie, cette chute mélancolique, quoi. Bon, encore un mot, je ne sais pas, identification projective, introjective. Oui, c'est pas un éclatier, on ne l'est pas quand même. Bon, je pense qu'on peut quand même arriver à faire des ponts, hein, même si c'est très curieux d'ailleurs que ce soit pendant la Première Guerre mondiale que Freud a découvert la pulsion de mort, et que ce soit dans la deuxième qu'il y a eu ce débat et cette guerre fratricide absolument terrible dans la communauté psychanalytique autour des thèses justement de Melanie Klein. C'est quand même quelque chose de surprenant. Alors, identification projective, oui, ça me paraît majeur. Véritablement, je ne vois pas comment on peut aborder la question des délires d'influence sans faire appel à cette notion de quelqu'un qui est en l'autre, qui est en moi. Et de cette lutte terrifiante et terrible qui se passe dans ce corps psyché qui est mélangé, quoi, qui est un corps psyché pour deux et déchiré. Ça, ce sont des choses, je me semble que c'est vraiment incontournable. Et j'y ajoute quelque chose à cette identification projective, bon, ce que ne fait pas Melanie Klein, qui voit simplement le prototype d'une relation d'objet agressive. Bon, d'abord, je ne crois pas du tout qu'il s'agisse d'une relation d'objet dans l'identification projective, mais il y a cette idée qu'on va rentrer dans le corps de l'autre, corps psyché, pour le détruire de l'intérieur, ça c'est ça la thèse d'identification projective. Mais moi je crois qu'il n'y a pas que cette notion de destruction, il y a aussi une notion de réappropriation au niveau de l'envie. Les deux termes qui sont en jeu, ce sont la haine et l'envie qui sont là dans cette... Bon, voilà, on verra si on peut en dire autre chose. Alors narcissisme, oui, la seule fois que j'ai utilisé le terme dans le livre, c'est pour employer le terme de narcissisme primaire à propos de l'originaire. Et alors, je regrette. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû, parce que je pense pas qu'il s'agisse de narcissisme dans le sens de l'investissement de soi Je ne crois pas qu'il y ait véritablement de situation qu'on pourrait dire anobjectale, même si on ne peut pas parler véritablement d'objet dans ces temps primitifs. Mais par contre, on peut parler de moi-objet. On peut parler d'une altérité, d'un travail de l'altérité qui est toujours présent. Il n'y a pas de possibilité, il me semble, de mettre à l'écart de cette notion d'une altérité intérieure, interne, externe, qui est toujours là. Pourquoi le terme de narcissisme? J'ai du mal à l'utiliser dans ces situations-là. Voilà, écoute, bon, c'est tout pour l'instant.
Alors, Jean Broustra.
Bon, eh bien, merci d'abord de m'avoir invité. Moi, je suis un outsider. Je ne suis pas du quatrième. J'ai eu une longue fidélité avec le cercle freudien à Paris. Et le travail soutenu avec Michel Demangea à Bordeaux, alors qui nous a tenus pendant des décennies. Et Dieu sait si à cette occasion-là, de ces décennies, on a énormément essayé non seulement de réfléchir évidemment sur la pratique du soin au psychotique, mais également d'engager des débats parfois très complexes où se mêlait souvent un apport que nous espérions du côté de la littérature, de la poésie, de la création et de l'expression, puisque moi, comme certains le savent, j'ai consacré beaucoup de mon énergie à mettre en place des ateliers d'expression dans les institutions psychiatriques, de façon à aider les patients psychotiques par des médiations autres que le langage parlé, c'est-à-dire ce que j'appelle les langages au pluriel, c'est-à-dire des médiations avec la peinture, l'argile, etc. L'argile intervient d'ailleurs une fois dans ton livre à propos d'un patient que j'ai repéré au chapitre 13 et qui sera l'objet de mon intérêt. Donc, merci de m'avoir invité. J'avais d'abord, en 1998, pour la revue L'Information psychiatrique, fait une analyse d'un livre important de votre appartenance, de votre groupe, de Sophie de Mijoula Mellor, c'est comme ça qu'on dit, Penser la psychose. Alors, ce livre était quand même particulier dans le sens qu'il posait tout de suite qu'il y avait difficulté, il y avait presque scandale de rencontrer la psychose. À preuve que sur le frontispice de son livre, elle avait choisi de l'illustrer par un tableau de Delaunay qui est au musée d'Orsay, qui s'appelle « La peste à Rome », où dans une rue jonchée de cadavres, la mort frappe violemment sur une porte, s'élevant de ses ailes, une épée à la main, un ange l'encourage à son ouvrage. Alors, pour accompagner le titre « Penser la psychose », Freud pensait avoir apporté la peste aux Amériques en introduisant la psychanalyse, mais elle menace aussi la relation entre psychose et psychanalyste. Cette jouissance pulsionnelle du surmoi alliée aux pulsions de mort, Lacan le qualifiait d'être obscène et féroce. Par rapport à ces passions intraitables, c'est le titre d'un très beau livre de Jacques Hassoun, la pratique et la théorie psychanalytique sont menacées de deux écueils que probablement tu contournes plus ou moins. Soit éviter d'attraper la peste en tenant la psychose à distance, ce qui inciterait à opérer une sélection rigoureuse des clients pour naviguer au plus près de la névrose. Donc ça, c'est la pratique de psychanalyse en cabinet, ce qui est la tienne, mais toi, tu accueilles des psychotiques. La preuve du livre, l'écoute trouve là sans doute une raisonnable souplesse par rapport au surmoi théorique. Soit, et ça c'est encore plus pernicieux, contenir la peste dans une quarantaine conceptuelle, en lui imposant la résidence surveillée des concepts psychanalytiques appliqués à la psychose. Alors, dans cette phrase un peu longue, vous avez là tout ce que j'ai personnellement essayé, sans toujours l'éviter, essayé de me méfier et donc de relancer les questions Probablement, tu as parlé de la phénoménologie, alors là, c'est quelque chose à laquelle j'ai beaucoup participé, de par ma formation universitaire avec le professeur Marc Blanc et d'autres, et même de Mangeart et tout ça. Ce qui fait que Fédida, dont on parlait tout à l'heure avec notre ami Pascal Keller, Fédida disait, il n'y a pas moyen d'aborder la psychose si on ne cède pas aussi de point de vue qui, par rapport au transfert, hein, raisonnable relation de la psychanalyse, qui dit psychanalyse par le transfert, il faut aussi construire la coprésence, c'est-à-dire avoir la capacité de recevoir le dire de la personne psychotique. Et ce dire de la personne psychotique, il ne suffit pas de la recevoir dans la balise de l'institution psychiatrique ou dans le bureau du psychanalyste. Il faut probablement, et c'est ce que tu fais ce que tu fais au chapitre 13, qui a attiré toute mon attention, c'est-à-dire que par rapport à un patient très difficile, tu dis, il s'agit là de risquer de construire des praticables. Alors les praticables, peut-être savez-vous que c'est un terme qui nous vient de la danse, du théâtre, et donc quelque chose d'importé, si je puis dire, dans nos références psychiatriques et psychanalytiques. Alors le livre de Gérard Balzagette aborde de manière franche cette problématique et laisse entendre très vite qu'il faut inventer des scènes cliniques, voire des praticables, je viens de le dire, en dehors des strictes balises psychanalytiques. D'où dès le premier chapitre, et alors ça m'a enthousiasmé, que pour commencer un livre sur la folie et la psychanalyse, Gérard Balzagette a le culot, il n'y a pas d'autre terme, chapitre 1, psychose, drogue, sublimation, William Burroughs. Alors là vraiment, là tu fais quand même très fort. Parce que William Burroughs, j'ai vite sorti les quelques livres que j'ai de lui, dont Le Festin nu, bien entendu, puisque c'est là-dessus que tu mets la focale, c'est quelque chose d'évidemment à la lecture de très difficile. Peut-être beaucoup d'entre vous avez-vous lu Le Festin nu ou serez-vous encouragé à le lire, mais c'est un véritable éclatement de scènes extrêmement sadiques, obscènes, d'une sexualité très obscène, très archaïque, alors pour le coup. Et là, on a quelque chose qui fait que ce n'est pas un roman construit comme un récit. Il n'y a pas de récit. C'est véritablement des flashs qui se succèdent les uns les autres. Et ce qui a attiré ton attention, c'est que le Festin nu a été publié en 1959 aux États-Unis, où il a été immédiatement interdit parce que l'obscénité en est absolument considérable. C'est en 1964 que la traduction française chez Gallimard a permis que le livre soit lu, en tout cas en France. Et ensuite, aux États-Unis, ça s'est élargi, la censure s'est levée. Mais alors, ce qui se passe, et qui est passionnant du point de vue aussi de la psychanalyse et de la problématique du transfert dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'en 1991, David Cronenberg sort un film que vous pouvez regarder en DVD actuellement, qui s'appelle Le Festin nu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Cronenberg, qui était fasciné par ce livre, comme beaucoup de cinéastes qui ont d'ailleurs abandonné le projet, tellement c'est impossible à suivre Burroughs de le mettre en cinéma, en scénario, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Cronenberg a pris du temps pour rencontrer donc Burroughs à Tanger, où il était à ce moment-là. Et c'est donc en 1991, vous voyez, 1964, la traduction française, 91, le film. Il s'est passé des années d'entretien entre Burroughs et Cronenberg, qui fait que, je vais vite, mais je risque l'hypothèse que, en fait, Cronenberg a peut-être fonctionné comme un psychanalyste par rapport à Burroughs, dans le sens où il a permis d'historiser, alors ça c'est une notion plutôt lacanienne, mais qui est très importante, mais que Fédida reprend souvent. C'est-à-dire la question de faire rentrer une personne psychotique dans une histoire possible. Et cette histoire possible, elle ne l'est pas du temps où Burroughs écrit son premier Festanu, si je puis dire. Et donc, cette historisation permet de transformer cet éclatement, on peut dire. Alors, c'est la drogue, bien entendu, qui domine la question, mais enfin, on peut imaginer que surpersonnalité psychotique favorable à la drogue, on n'ira pas plus loin là-dessus, mais à ce moment-là, Cronenberg met de l'ordre, fait un récit, fait une historisation. Et qu'est-ce qui ressort de ce récit et de cette historisation? C'est qu'il s'agit, dans le film de Cronenberg, de décrire le destin dangereux que doit affronter tout écrivain digne de ce nom. Voilà. Ça veut dire qu'écrire, c'est dangereux. À ce jeu-là, c'est Van Gogh qui le disait, mais on pourrait le dire pour tous les artistes et les écrivains, j'y risque ma peau. Et il est nécessaire d'y risquer sa peau si on peut véritablement entrer dans la littérature. Alors, quel est le fil que trouve Cronenberg, qui n'est pas du tout dans le Festanu d'origine, si je puis dire celui de Burroughs? C'est les machines à écrire. Vous savez sans doute que Burroughs se situait dans la filiation d'une famille qui a produit beaucoup de machines à écrire. L'Underwood portable, l'Hermès 3000, la Remington, l'Hermès Rocket, enfin il y a toute une liste. Ça, c'est des vraies machines de la famille. Mais dans le film, on voit à ce moment-là, et ça sera repris dans le livre Les machines molles, plus tard, par Burroughs, on voit qu'un certain nombre de machines, la Clark Nova, puis il y a la Martinelli, puis il y a la Mujahideen, ce sont des machines qui, d'un seul coup, à travers la tactilité des touches que l'écrivain, à ce moment-là, cherche son texte en tapant sur les touches, sous les touches, qu'est-ce qu'il y a? Je vais le dire vite parce que ça résume vraiment l'ambiance d'ensemble. Il y a de la bidoche. Il y a véritablement des choses obscènes, mais ce sont des choses qui touchent aux cellules, aux gluants, aux cloportes, aux insectes, au monde véritablement émancipé de toute symbolisation possible et probablement, on peut dire, qui échappe ou qui est très difficile de rattraper avec les mots. Et là, dans tout le film, vous avez véritablement toute une série d'aventures avec ces machines à écrire, où d'ailleurs elles se dévorent les unes les autres. Il y a vraiment une ambiance extrêmement féroce, jusqu'à la Mujahideen, alors elle qui tape des caractères arabes et puis qui ouvre alors véritablement à une histoire d'une rencontre avec une femme. Cette femme s'appelle Joanne, elle est dédoublée dans le film et dans le livre d'ailleurs. Joanne, c'était la première femme de Burroughs qu'il avait réellement tuée par mégarde, on va dire, en 1951, en jouant à Guillaume Tell avec elle. C'est-à-dire, elle met un verre sur la tête, il prend le revolver, et le revolver, au lieu de faire tomber le verre ou casser le verre, ça tue la dame. Voilà. Et donc, ça a été un traumatisme pour Burroughs, vous doutez, absolument terrible, à partir de quoi il est parti. Il a commencé à se droguer à fond la cale, il est parti à Tanger, il est parti dans toute sa dérive. Véritablement, on en est là, dans la Mujahideen, il y a la rencontre impossible avec la bisexualité dont vous parliez tout à l'heure. C'est quelque chose qui fait que ça devient impossible. Et l'ensemble, le livre et le film, se terminent de façon tragique. Tout est perdu, dit Joanne à la fin, la deuxième Joanne, qui vient substituer la première qui avait été tuée. Voilà. Alors, pour aller vite maintenant, je dis que dans le chapitre 13, qui s'appelle « La reconstruction psychotique », Le patient que reçoit Gérard dans son bureau est véritablement quelqu'un qui m'a paru digne d'Antonin Artaud. Si je dis ça, c'est parce que je viens de faire une intervention dans le midi, là, autour d'Antonin Artaud, qui est très à la mode hein, actuellement. Et là, on a un patient qui disperse des feuilles d'écriture d'une façon complètement désordonnée. Et il écrit avec son crayon, « La mine est incisée vraiment comme un crack, une incisive, un pic, un bec, vraiment ce que j'ai de plus pointu et de plus acéré. » Alors là, immédiatement, raccord avec Antonin Artaud, avec ses onomatopées, ses imprécations, ses intercessions, ses interjections, lorsque Antonin Artaud se précipite, crayon en avant, perfore la feuille et envoie donc de véritables cris furieux qui sont, si on en croit Derrida, qui a beaucoup travaillé ce processus, ce sont des processus d'auto-création et surtout d'auto-naissance. Véritablement, Artaud a dit « Je suis mon père et ma mère » et donc là. Et je pense que le client que tu as eu là, il me semble qu'il pouvait ressembler à cela. Et c'est ça qui m'a absolument passionné de lire. Alors, j'en finis avec une affaire très compliquée, c'est cette affaire de la sublimation. Hein, parce que là, il faut quand même en dire quelque chose. Ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi qu'on puisse penser que ça ne va pas de soi pour les névrosés, mais ça ne va pas du tout de soi pour les psychotiques de penser qu'ils puissent accéder d'une certaine façon à la sublimation. Alors, Jean Houry, que j'ai beaucoup fréquenté, a écrit des choses très éclairantes, et je vais vous en citer un petit passage, là, au cours d'un de ses innombrables discours. Alors là, il faut poser une question entre sublimation et Aufhebung. Alors, je vais m'expliquer. Qui est toujours une question qui est toujours agaçante, dit Jean Houry, sournoise, difficile, c'est la sublimation. Ce n'est pas glorieux, ce n'est pas la joie, ce n'est pas la participation au grand tout, comme certains commentateurs l'ont développé en long et en large, en essayant de commenter Lacan et Freud. Lacan dit que ce qui se rapproche le plus de la sublimation, c'est l'expression subliminaire, à la limite inférieure de quelque chose. Je me rappelle qu'en 1960, au cours d'une intervention à Sainte-Anne, il avait précisé qu'on pouvait préférer à sublimation le terme hegelien de Aufhebung. C'est difficile à traduire. Oben, c'est lever et off, c'est au-dessus. Alors Aufhebung, c'est retenir quelque chose tout en changeant de registre. Retenir quelque chose tout en changeant de registre. On est dans un autre registre, mais ce n'est pas pour autant qu'on a massacré ce qu'il y avait avant. On peut proposer le terme assumation. Alors c'est un peu difficile, mais je crois que ça traduit quand même l'effort considérable que les psychotiques engagés dans des processus de psychothérapie, que ce soit de groupe ou psychothérapie individuelle, on s'aperçoit que lorsqu'ils arrivent à aller mieux, comme on dit, il y a là quelque chose qui est toujours un effort qui est porté à corps et à cri, j'allais dire, et véritablement c'est quelque chose de fragile. Et ça, c'est certain qu'on n'a pas du tout l'installation dans quelque chose qui serait cette sublimation qui nous fait passer de la sublimation de la pulsion sexuelle dans l'échange de l'être, enfin quelque chose de très très élevé. Chez les personnes psychotiques, ça reste extrêmement fragile. La symbolisation, si elle est atteinte, reste toujours fragile. C'est ce que moi j'ai appelé l'insécurité symbolique, qui est quelque chose véritablement qui nous accompagne quand on a fait un long parcours avec certaines personnes psychotiques pendant longtemps, on s'aperçoit que cette fragilité symbolique est quelque chose qui est toujours là. Mais cette fragilité symbolique, elle permet aussi des créations. Elle permet aussi parfois que des gens puissent écrire, peindre, sculpter. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de valeur.
À propos, bon, mais je vais simplement me contenter de la question de sublimation et Aufhebung,
voilà.
Parce que tout de même, je crois qu'il y a une grande différence entre les deux.
Oui.
C'est-à-dire qu'Aufhebung, quand même, on entend par là une levée des refoulements, à mon avis. par l'interprétation. Et par sublimation, il ne me semble pas qu'on entende une levée du refoulement, mais une autre manière de régler la question. Et par exemple, on peut dire que Burroughs, on ne peut pas dire, enfin, bien qu'il y ait un travail d'auto-analyse très important chez lui, et il le dit d'ailleurs explicitement, on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement une levée des refoulements qui le concernent. Par contre, il y a autre chose qui est une sublimation, c'est-à-dire une transgression radicale de toutes les instances surmoïques, qui fait que de là, il crée cette sorte, pas d'illusion, mais ça la sublimation, de réinvention, de réengendrement du réel à partir de la créativité originaire. Et là, c'est quand même un mouvement très, 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 très différent. Ce qui n'empêche pas que Freud dise qu'en effet, dans notre travail de lever des refoulements, il est bien possible que ça se termine ou que ça s'achève dans la sublimation. C'est-à-dire que la sublimation soit d'une certaine façon une issue de l'analyse aussi, quoi. C'est-à-dire que lever des refoulements, ça n'a qu'une... C'est quand même assez limité. Alors, à propos de la... du symbole, la fragilité du symbole, bon, oui, fragilité du symbolique, qui est toujours quelque chose qui est à reconstituer, c'est-à-dire la manière dont nous créons du sens, quoi, où nous tentons d'en créer à travers les mots et pas seulement. Il me semble que cette fragilité du symbolique chez certains sujets, et justement ce qui peut favoriser ou nécessiter même le travail de symbolisation qu'ils peuvent faire. Je m'explique, c'est parce que au fond les structures symboliques sont extrêmement peu fiables, peu crédibles, que justement toute l'élaboration qui leur a été proposée du côté de la bisexualité, de la différence des sexes est quelque chose qui est très très friable, qu'ils sont amenés, du fait que de ce fait-là, les mots ne veulent pas dire grand-chose, quoi, finalement, ils sont amenés à réinventer le symbole, à le réinventer d'une autre façon. C'est ce que fait Burroughs, hein, chez lui. Bon, il dit, dès que je suis né, la conspiration a commencé, il a été question de me tuer, quoi. Bon... Donc, il faut trouver à vivre avec ça, reconstituer quelque chose. Bon, je ne peux pas trop m'avancer là-dedans, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. Mais alors, en ce qui concerne, pour finir, la question de la psychose et de la sublimation, le psychotique, il a le plus grand mal quand même à créer de la sublimation, le plus souvent. Je me rappelle d'un ami qui me disait, il y a bien longtemps de ça, et puis je partageais tout à fait son idée, il me disait, moi, quand je suis arrivé à l'hôpital psychiatrique, je pensais que j'allais rencontrer l'Autréamont. Eh bien non, on ne rencontre pas l'Autréamont. L'hôpital psychiatrique, le plus souvent, on rencontre la misère, le désespoir, l'écrasement, enfin, et ces choses-là. La sublimation, elle est vraiment, bon, sauf pour certains qui y arrivent un peu. Arthaud, est-ce qu'il y arrive véritablement? C'est pas certain, hein, parce qu'on le voit dévoré par la haine, par le délire lui aussi, quoi. C'est pas certain du tout. Burroughs, qu'est-ce qu'il y arrive? J'ai essayé de montrer qu'il y arrive. Il y arrive, oui, mais là aussi de façon très, très limitée. Hein. Il finit par fabriquer du délire lui aussi. Hein. Vraiment du délire, quoi, parce qu'il n'arrive pas.